curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
6.
Ben, c'est ça.
On l'appelait Nicolo. Ah, comme il était mignon. De tout petit Nicolo. Quoi que petit peu grognon.
Game on.
Hey, ben, celle-là. En plus, c'est Saint-Nicolas, là.
Un petit peu grognon. J'adore ça. Ah, t'es en forme?
Le voyez-vous dans suis... votre tête, Kiwi, Jumpist, ses pieds, il y en a un qui
Et Kiwi, dans son étape. D'ailleurs, Kiwi sera notre invité. Probablement vendredi, si ça fait dans son horaire, il est pas au courant, là, mais, je vais vous présenter c'est qui. Il vient d'où, ce gars-là? Pourquoi il est fucking même? Fait que, on va tout...
On le sait,
ouais,
c'est ça qui nous intéresse, là.
Oui!
Ah, je pensais pas qu'il y avait une raison.
Son médecin va être là pour l'expliquer. Okay. Fait que, son médecin est à Robert Chouard. Fait que, il est off le vendredi. Fait qu'il va pouvoir nous en dire davantage. Mais, il faut le prendre en note, hein. On n'oublie pas. C'est ça. Vous allez le connaître un peu plus tard. Mais dans son processus de création, c'est incroyable comme c'est instantané. C'est Andréanne qui lui a parlé du petit Reine au nez rouge. Puis là, il a allumé tout de suite. Il l'a enregistré tout de suite. Bang! C'était prêt. Bang. C'est pas un processus de réflexion à très long terme, mais plutôt de façon très, très rapide.
Spontanée.
Bon. Hey, je peux-tu commencer avec une de mes histoires?
C'est ton émission, Stéphane.
Parce que oui, c'est ton nom qui est dessus.
Non, je sais, mais t'as de quoi d'intéressant, puis j'ai plus un commentaire à faire sur ce que tu vas dire. Puis là, on est louche, on n'a plus d'invités, hein, de toute façon, c'est fini.
Plus d'invités, mais on a encore des pauses qui vont s'inviter dans le spectacle.
Oui, on va faire des pauses, mais je vous le dis, si vous voulez le line-up, là, on va parler de mes émissions de TV, on va parler du sujet à Nico. Après ça, Pascal est allé au théâtre, voir du théâtre, elle va nous décrire...
Pourrais aimer, c'est ça l'affaire, c'est pour ça que je veux t'en parler.
La pièce est encore à l'affiche.
Oui. Mais j'aimerais vraiment ça qu'on en parle aujourd'hui.
C'est arrivé souvent, j'ai parlé des films, il n'y a même pas de cinéma. Mais on va le faire, je te l'ai promis. Là. Je te dis, mais écoute, il est 8h20.
C'est ta carte chouchou, tu as le droit de faire ce que tu veux.
Ouais, c'est pas ma carte chouchou, c'est un sujet.
On est allé nulle part. Mais hier, j'écoutais Jean-là, puis là, je suis rendu un fan.
Tu as parlé d'eau froide en passant.
Oui, oui, c'est ça, d'eau froide, c'est dans mon émission. Hier, je me suis... c'était sur Historia. Est-ce que vous écoutez Historia, vous autres?
Non, pas
sûr. Pas TV.
OK. Historia, il y a une émission qui s'appelle Inexpliqué ou Inexplicable. Ouais. Et c'est des faits vécus que eux attendent d'expliquer. C'est animé par un vieil animateur américain qui croit, lui, il croit beaucoup aux forces. Aux forces invisibles, mettons. Tu sais, aux esprits.
Ouais.
Comment il s'appelle? Il est très connu. J'ai envie de dire William Shatner, mais je suis pas sûr que c'est ça.
Ça se peut, oui. Ça se peut,
ça se peut que ce soit lui. Là, ouais. Il est vieux, il a grossi un petit peu. En tout cas, il est...
C'est un Québécois, en passant.
OK, mais...
Ouais, c'est quoi le nom de ton émission?
C'est Inexplicable à Historia. J'ai juste en français, je sais pas en anglais c'est quoi. Puis hier, ils ont expliqué quand même des phénomènes assez extraordinaires dont plusieurs ont marqué mon imaginaire, dont l'eau froide. C'est que ça se passe au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un sous-marin britannique qui est le sous-marin NS Percus, je pense son nom. C'est pas important, le nom du sous-marin, on s'en sait. C'est un sous-marin britannique. Ouais. Et là, c'est la guerre avec, évidemment, l'armée allemande. Et le sous-marin est atteint d'un missile et le sous-marin coule. Mais le sous-marin coule, mais les sous-mariniers sont à l'intérieur puis ils sont pas morts.
C'est pas les Russes, mais, là, le missile.
Non. Ah, ben, peut-être. Écoute, je sais pas trop.
C'est de la station spatiale.
OK, comme la station spatiale. Et... Donc, le Perseus ou le Percus coule directement au fond de la mer. On l'a découvert plus tard. Là, 50 ans après, on a retrouvé le sous-marin. Mais il est à 50 mètres de profond. Ça veut dire... c'est creux en joie le vert. C'est 1500 pieds.
Ouais.
1500 pieds. Ouais. Donc, c'est très, très creux. Et donc, les sous-mariniers sont à l'intérieur. Ils voient bien que le sous-marin a coulé, il est mort. Et là, il se remplit d'eau. Et il y a un sous-marinier qui s'appelle John Copps. Carp, c'est A, c'est un complexe PS, tout peu importe, qui est là, il est dans le sous-marin, lui. Puis là, il veut pas mourir, lui. Lui, il dit, moi, je veux pas
tellement
mourir.
Ouais.
Et ils sont pas équipés, là. Imaginez, là, on est en fin des années 40, là, au milieu des années 40. Et là, il prend une genre de veste de flottaison pour l'amener à la surface le plus vite. Il se met des genres de lunettes de plongée, évidemment, de cette époque-là, qui sont très différentes de ce qui existe à cette heure.
C'est William Shatner, le narrateur.
C'est lui, hein, c'est William Shatner, hein. Fait que lui, il croit un peu aux esprits dans ce cas-là, moins un petit peu, mais donc, le John en question, il est dans le sous-marin et il décide de, il dit, je sors. De toute façon, t'as qu'à mourir ici, tu sors. Et je vais essayer de monter à la surface le plus vite possible. Je rappelle 50 mètres, 1500 pieds. C'est pas juste de garder son air jusqu'à la surface, qui est un défi. C'est également l'effet de caisson. L'effet de caisson, c'est l'azote. Vous savez, quand les paliers de décompression...
La pression, ouais, c'est ça.
Vous savez que les plongeurs, quand ils descendent en bas de tel niveau, ils doivent arrêter à des paliers de décompression.
Qu'ils remontent tranquillement, ouais.
Si tu montes trop vite, l'azote dans ton sang, c'est pareil comme quand tu ouvres une canette de liqueur. Tu sais, quand tu l'ouvres, là, toute l'azote veut sortir, là, toutes les bulles veulent sortir. C'est la même chose dans ton corps. Si tu montes trop vite, les bulles...
Tu vas perdre tes bulles.
C'est ça, puis tes organes vont arrêter. Okay. Surtout le cœur, là, l'azote va sortir du cœur, et là, ça va être... tu vas en mourir. C'est quasiment automatique. Mais là, on s'explique pas, parce que là, ce gars-là a décidé de sortir du sous-marin, pas équipé, pas rien. Fou, il est monté à la surface et il a survécu. Et on n'était pas... Au début des années 50, on croit pas son histoire. Quand on le retrouve et tout ça, on croit pas son histoire. C'est à peu près impossible. Puis là, il explique. Puis là, on tente d'expliquer comment il aurait fait pour en arriver là. Son histoire sera confirmée plus tard, parce que 50 ans après... Il y a des plongeurs qui découvrent l'épave du NSM Perseus. Et là, quand ils arrivent à l'épave, les premiers, ils voient que l'écoutille, tout ce que John Copps a décrit, c'est exact. Et l'écoutille est vraiment jamais ouverte. Ce qui est à peu près impossible dans le cas d'un sous-marin qui coule. Donc, il était vraiment sorti du sous-marin. Et il a vraiment survécu. Et là, on essaye de s'expliquer. Et dans ses explications à lui, il disait que il a hésité longtemps avant de sortir. Tu sais, il était pas au sec, là, mais il était comme à l'intérieur. De sortir, ça prenait une certaine dose de courage, mais qu'il n'avait pas capable de prendre cette décision-là. Et à cette époque-là, les sous-mariniers britanniques avaient le droit à des portions de rhum à tous les jours. Il était portionné, mais il avait le droit à une shot de rhum.
Un petit bonheur par jour.
Puis là, vu qu'il était dans la tragédie, mais là, lui, il a ramassé une bouteille de rhum, puis il a décidé de la boire, d'en prendre plusieurs gorgées avant de se risquer à l'extérieur. Et on dit que d'avoir consommé une quantité d'alcool qui est difficilement explicable peut expliquer comment son corps n'a pas réagi aux étapes de décompression qu'il n'a pas vécues pour atteindre la surface. Mais imaginez-vous, après avoir atteint la surface, ce qui est déjà un miracle en soi, il a nagé, savez-vous combien de temps? Il a nagé 10 kilomètres. Pour échouer
non
10 kilomètres pour aller échouer sur une berge rocailleuse, et là il a été récupéré et par la suite, mais
il y a personne qui a questionné comment il a réussi à ouvrir l'écoutille, tu sais, avec la pression de l'eau. On dirait que ça me surprend.
Ben, c'est que l'eau entrait à bord. Fait que
ça a
décompressé la patente. Et il a réussi à ouvrir l'écoutille. Puis il s'en est sorti. Puis là, eux autres essayaient d'expliquer ça. C'était assez génial. Là, parce que j'ai plein d'autres histoires, là, mais je vais vous les garder pour d'autres fois. Là. C'est vraiment...
C'est ta nouvelle émission.
Ouais, ma nouvelle émission phare, inexpliquée. Hey, je finis avec une dernière petite courte. Là. Le gars, il s'appelle Brian Clark. Lui, le 11 septembre 2001, il est dans une des deux tours du World Trade Center. Il est dans la tour 2. Il est dans la tour sud, lui. C'est la tour nord qui est frappée en premier, la tour sud en deuxième. Lui, il travaille là, pour un parquet, là, pour du trading. Là. Et lui, son bureau est au 84e étage. L'avion, le deuxième avion, percute la tour nord, quelques minutes après l'autre, au 85e étage, et elle percute le building avec un angle. Fait que elle frappe le 85e étage et s'enfouit.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Jusqu'au 77e étage.
En diagonale.
En diagonale. Fait que est détruit par le fait même, sur son passage, évidemment, trois quarts du building à peu près à ce moment-là. Mais là, lui, il raconte son histoire, là, parce que lui, il a entendu le premier avion frapper la tour d'à côté. Il sent, là, tout le monde accourt à la fenêtre parce que ça a branlé. Là, il voit les flammes monter le long des fenêtres. Il s'approche à la fenêtre et il voit 9 étages plus haut que où ils sont parce que le premier avion frappait beaucoup plus haut. Et là, il sort par la fenêtre puis il voit que le bâtiment à côté est en flammes. Moi, ce que je savais pas dans cette histoire-là du World Trade Center 2001, le 11 septembre, c'est que dans la tour 2, il y a des dirigeants, je sais pas qui, la sécurité de la tour, qui ont pris l'intercom et qui ont dit aux employés « You're safe, you don't have to live. »
Oh boy.
Tu sais, vous êtes safe ici, c'est la tour d'à côté qui est en feu. Puis on ne sait pas ce qui est arrivé à ce moment-là. Là. Fait que vous avez pas besoin de quitter. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de panique dans la tour nord, donc dans la tour qu'on va appeler la numéro 2, et que tout le monde reste là. Ça, c'est... Ouais. Mais tu sais, en même temps, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Fait que... Alors, le gars en question, qui s'appelle Brian Clark, lui, il est à son bureau, il est au 84e étage, et là, quelques minutes plus tard, l'avion frappe. Évidemment que tout revole. Imaginez, les plafonds tombent, les gicleurs partent, toute la fumée, voit plus rien. T'sais, c'est le chaos total. Mais lui n'est pas enseveli parce qu'il est dans le dernier tiers ou le dernier quart de la tour qui n'est pas détruit complètement. Alors, il se lève et il se dirige dans ce qu'il appelle le corridor qui connectait tous les locaux sur chacun des étages. Et ce corridor-là était connecté sur 4 cages d'escalier qui descendaient évidemment jusqu'en bas. La A, et lui, quand il sort dans le corridor, la première, évidemment, c'est la cage A qui est devant, tout près de son bureau. Et il raconte à William Shatner, oui, parce qu'il l'interview, il raconte que il sait pas pourquoi. Il pense que c'est une petite voix en lui. Et également, il a senti une présence à côté de lui qui le poussait plus loin. Écoute, il vit encore aujourd'hui, et il dit, je ne sais pas c'était quoi cette petite voix-là, c'était pas ma voix, c'était pas la voix de quelqu'un que je connais, mais il y a une voix qui me disait de ne pas prendre cet escalier-là.
Il ne l'a pas pris.
Il l'a pas pris. S'il l'avait pris, il serait mort. Ouais. Parce qu'oubliez pas qu'à la tour 2, parce que c'est la première qui s'écroule, c'est la deuxième qui est frappée, mais c'est la première qui s'écroule. Et la tour 2, quand elle s'écroule, tous ceux qui étaient au-dessus du 77e étage, où l'avion a frappé, il y en a seulement 4 qui ont survécu.
Ah oui, hein.
Dont lui. Dont lui et un homme. Là, c'est plate parce que l'histoire ne revient pas sur cet homme-là. Lui a sauvé un gars qui était enseveli 2 étages plus bas que lui. En tout cas, pour juste revenir au corridor, il est dans le corridor, il y a une petite voix qui dit « rentre pas là ». Et il sent comme une pression qui le pousse à l'extrémité du corridor. Alors, il se rend à ce moment-là à l'escalier C. Puis là, il se dit « OK, je descends ici ». Et là, il descend là, il entend quelqu'un 2 étages plus bas crier « Help », et il lui tend la main, le gars se nomme, Stanley, je pense, il dit « On va être des frères pour toute la vie ». Le gars est un peu blessé, il sort de là, il traîne, et il descend jusqu'en bas avec lui, ils sont arrivés au niveau du sol, et c'était tellement le chaos, même en bas, que eux ont eu le temps de s'éloigner avant que ça s'effondre. C'est pour ça qu'ils ont survécu. Mais, donc, il raconte ça parce que il dit qu'il y a quelque chose qui l'a poussé vers le bon escalier et c'est pour ça qu'ils sont seulement 4 à avoir survécu des étages supérieurs à l'impact de l'avion. C'est capoté, hein?
Mais juste d'y aller, même s'il entend dire par les dirigeants vous êtes safe,
Il est parti après l'avion, par exemple. Okay. Il a fait comme tout le monde, il est resté.
OK.
Puis il est parti après le deuxième impact. Non, il n'est pas parti avant.
As-tu tendance à croire à ces affaires-là?
Zéro. C'était peut-être... des fois, on va s'imaginer ça.
Pour se réconforter puis comprendre le jugement qu'on a eu à ce moment-là. Parce
que des fois, on prend des décisions. On ne sait pas pourquoi, mais ça va être la bonne. Puis on a envie d'attribuer ça à quelque chose.
Ouais.
Mais si vous saviez comment votre cerveau, à tous les jours, à toutes les secondes, prend des décisions que vous n'avez pas réfléchies. Tu sais, si, mettons... je sais pas, mon café tombe là, je vais avoir le réflexe de le ramasser, mais on va avoir pris une décision là, de faire un
juste le fait d'aller le chercher.
Ouais. Tu viens de décider d'en parler.
Ouais, c'est ça. Donc les décisions ne sont pas tous réfléchies. Fait que c'est pour ça que je ne crois pas du tout à ça et à ces genres de phénomènes-là. Mais c'était quand même intéressant de voir que lui, sa décision l'a amené au bon endroit et donc d'avoir la vie sauve.
Es-tu un amateur de freak show, soit à la télé ou à la radio, peu importe, aimes-tu ça les malaises puis des affaires qui sont un peu freak? As-tu regardé, autrement dit, Tiger King?
Oui.
OK, ben la suite arrive aujourd'hui, si jamais vous êtes des fans.
C'est vrai?
Tiger King. Tiger King 2 arrive sur Netflix.
J'ai l'impression qu'on va être déçus. Parce qu'on n'avait rien à écouter là quand c'est sorti Tiger King
ouais,
en premier.
Il est tombé
là.
Juste au début de
on
la pandémie.
On était en pleine pandémie.
Ouais, mais
à la maison,
moi,
je pouvais pas sortir.
Je parle de ça, mais j'ai pas regardé 5 minutes de ça en passant.
C'est vrai?
Pour une mentionne.
T'es trop moqué.
Je déteste les freak shows.
Okay. Ouais, mais là,
ouais, mais c'est pas un freak show. De... C'est quand même. C'est pas un freak show. Je suis pas d'accord avec toi.
Non.
Un freak show, c'est Jerry Springer.
Ouais.
Ça, c'est un freak show.
OD, c'est un freak show.
Non,
c'est du vrai monde. Moi là, quand c'est Tiger King.
T'es entouré de freaks aussi.
Oui, c'est du vrai monde. C'est du monde qui a des problèmes psychologiques.
Il a pas
non, mais c'est
tout,
ça.
Mais il pousse à bout,
hey, désordre extrême. Ouais. Ma vie à 600 livres. Mm. C'est pas des freak shows. C'est du monde qui a des problèmes psychologiques.
Oui.
Puis qui acceptent de se faire mettre
oui,
à la télévision.
Oui, mais c'est utilisé pour notre divertissement. C'est la définition même d'un freak show. Tu prends un freak et tu fais un show avec.
Il accepte.
C'est quoi un
le freak?
Freak
accepte, là.
Un freak, c'est un mais je pensais monstre que... ou un, quelque chose
mais
de...
Mais c'est bizarre, là. C'est une invention, non?
C'était une toune aussi. Le freak.
C'est chic.
Ah, merci freak. De nous ramener toujours aux vraies affaires.
Tu sais, moi, en tout cas, Occupation double, je considère ça comme un freak show. L'amour de l'île, je sais pas quoi aussi.
L'amour de l'île.
Écoute,
c'est bon.
Écoute mais Occupation double, là, c'est parce que le monde sont gênés, là. Mais ça.
Ah, mais t'as peu. La voix, c'est un freak show, tant qu'à moi, là.
Hein?
La voix, c'est un freak
okay,
show.
OK, je comprends.
Mais toi, t'es.
Mais je veux dire, OD actuellement, là, j'en viens pas comme il y a du monde qui écoute ça. Moi, je suis un peu fessé. Tu sais, mon fils qui me retexte dimanche soir, il me dit...
C'est pas nouveau, ça. Ça a toujours été extrêmement populaire. C'est
mais
une série vraiment
ça.
Intéressante.
On est en bas du million, là. C'est pas si populaire.
Ah non, mais c'est parce qu'ils sont pas capables de mesurer.
Okay.
Ils sont pas capables de... C'est que moi, là, tu sais, moi, mon gars, il me texte dimanche soir, il me dit... Es-tu à la maison? Je dis non, j'étais à Montmagny. Il dit, OK, j'étais avec les gars de l'équipe. Il joue Junior 2A, là. Mm-hmm. J'étais avec les gars de l'équipe, on irait écouter Occupation double à la maison. Tu sais, c'est parce qu'ils l'écoutent à rebours. Fait que je sais pas quelle méthode ils prennent pour mesurer ça. Mais quand tu l'écoutes à partir d'un ordinateur ou est-ce que ça s'additionne aux chiffres qu'ils l'écoutent live à la télévision, mettons, le dimanche soir? Moi, je crois... Moi, actuellement, je te dirais que quand ce que j'entends autour de moi, c'est une des émissions les plus écoutées, encore plus que District 31.
Ça me gêne même pas, moi, de dire que j'écoute
ben,
ça.
Mais non, mais
honnêtement, ça me gêne pas. Je trouve ça intéressant de voir comment t'interagis et tout. C'est sûr qu'il faut prendre en compte qu'il pousse à bout, là. Puis tu vois une personne, peut-être 15 minutes dans ta
semaine. C'est qu'il n'y a rien de réalité.
Le bout de freak, dans le fond.
On appelle ça de la télé-réalité, mais il n'y a rien de réalité parce qu'il y a des choix au montage. Il y a un peu de il y a quasiment de la scénarisation parce qu'on s'arrange pour qu'il arrive des trucs.
Je suis d'accord partiellement avec toi, là, majoritairement, je veux dire, mais j'entends quelqu'un de bien fâché contre ce show-là aussi. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve qu'avec les années, il y a quelque chose qui s'est passé dans les relations interpersonnelles chez les jeunes.
Ouais.
Puis c'est fun à voir.
C'est que le but du show, ce serait de former des couples. Mais
cette
ça marche
année,
pas pantoute,
ben,
mais ça
année,
forme.
Ça fonctionne. C'est ça qui est surprenant.
Ouais, mais ça marche pas. Ouais, mais en sortant de là, ils seront pas ensemble.
Ah, écoute, combien ça, c'est une excellente question.
Mais par contre, il y a beaucoup de monde qui sont restés des vedettes de ça.
Énormément.
Regarde, Mathieu Baron, c'est pas cette émission-là qu'il
avait? Mathieu Baron, il a fait Love Story.
Ok, c'est quand même maudit niaiser.
Il était bizarre.
Puis, l'autre qui mord tout le monde, là, comment il s'appelle?
Marie-Pierre Morin.
Marie-Pierre Morin.
Ça, c'est Occupation
Double. Non, mais on a, la madame qu'on a reçue, là, qui fait du linge, là.
Adrienne.
Nommez-les. Il y a un maudit paquet de monde qui sont sortis de cette émission-là.
C'est pas juste des raisins.
Non, mais je dis pas que c'est des raisins, mais ils sont restés dans le cercle des médias.
La Voix aussi, puis d'ailleurs.
Encore plus depuis que les réseaux sociaux.
L'Académie aussi a créé plusieurs vedettes qui roulent encore.
Oui, je trouve quasiment moins. Je trouve que dans cette heure, il y a un paquet qui a disparu. Johan, là, qui a gagné la voix, il fait quoi, cette heure-là? Il vend pas des chaussures. Il vend pas des bas de boulet, lui.
Johan.
Je sais pas.
C'est pas Johan,
je sais pas, peut-être.
Johan.
Hey, André, je doute que ce soit Johan.
Ah oui, j'ai entendu une joke sur lui hier, c'est pour ça que je suis son il chante. I am a cowboy.
C'est drôle, ça, non?
Oui, t'es tout fait.
Toi, t'as pas gagné.
Eh! Il a pas participé.
En tout cas. Mais
j'ai rien contre. En passant, Pascal, tu dis, quelqu'un de fâché contre cette émission-là. Non, j'ai rien contre Occupation double particulièrement. C'est tout le phénomène de la télé-réalité qui prend beaucoup trop place.
Attends,
je trouve, dans la culture populaire.
Pourquoi on n'écoute pas plus de documentaires, mettons, collectivement, là?
Oui, mais il y a certains documentaires que j'écoute que vous allez trouver que c'est des freak shows.
Ouais.
C'est comme ça, je viens de vous parler, là, inexplicable. Ou bien, tu sais, ma vie à 600 livres, je vous en parle plus, là. Mais tu sais, en même temps, c'est de la maladie mentale. Moi, je trouve que, et Tiger King, et toutes les émissions dont je vous parle, c'est de la maladie mentale.
Ouais, mais ils ont un point commun, puis c'est le bout de fake.
Ouais. Même
c'est
si
Johan.
Même si on s'aimait, je trouve à TVA là que j'écoute pas, oui. Mais ma blonde écoute puis elle m'en parle un petit peu. Je trouve que c'est de la maladie mentale, on n'est pas loin là. T'sais, c'est du monde qui vont pas bien, qui
c'est quoi, ils veulent se matcher encore sur tout le monde veut se matcher.
C'est fait pour ça, suivi par une psychologue ouais. Qui est très bonne, puis ça marche pas, là. Écoute, ouais. Ça marche pas. Là. Matcher du monde à la TV, ça marche pas.
Parfois, ils sont pas faits pour être ensemble non plus. T'sais, ça dépend de c'est quoi tes blessures personnelles.
Si un de mes problèmes avec la télé-réalité, c'est que si je savais que tout le monde regarde ça au deuxième degré, avec ironie pour mm-hmm. en rire, ouais. Ça me dérangerait moins. Mais je sais que la majorité, c'est pas ça. Ils pensent que ce qu'ils voient comme comportement, puis comme type de personnalité, puis comme allure, ça... C'est logique, puis c'est correct d'agir de même, puis c'est correct d'être comme ça dans la vie. Et c'est ça qui me dérange. Je trouve qu'au lieu d'élever, on diminue ouais. le quotient intellectuel.
Une émission de télé-réalité, oui. Il y en a une seule. Une vraie de vraie, là, dans tes standards, c'est L'amour est dans le pré. Moi, je venais pas me dire que c'est un freak show, là. Puis la preuve, c'est que ça a fait des couples, ça a fait des bébés, puis il y a aucun... Je vais prendre, j'aime beaucoup l'exemple de Nicolo. Il n'y a aucun scénario de mise en place. Il présente des filles ou des gars, des farmers. Puis tu regardes quel farmer tu as envie de rencontrer. Puis tu le rencontres à sa ferme, à pelleter de la marde, puis à nourrir des vaches. Non, mais c'est ah ouais, pas de scénario, là.
J'ai souvent entendu à l'émission ici que c'était probablement la plus intègre de toutes ces émissions-là, d'ailleurs.
Je peux pas voir comment ça devient un freak show.
Oui, je comprends. Mais un bon livre, une fois de temps en temps.
Il faut le lire, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est pas tous les livres qui ont des images.
Par exemple, le livre de Mylène Moisan.
Que je lis ici.
On va faire une pause.
C'est ça qu'il dit. C'était le tour à Nicolo, puis après ça, c'est le tour du théâtre. Mais là,
c'est Pierre qui mène ça, cette émission-là, si j'ai bien compris.
C'est moi qui reçois les livres.
Tu l'apprends aujourd'hui. Tu vas noter ça.
Je viens d'apprendre ça.
Ce que j'ai appris aujourd'hui.
Mais quand le petit... Quand le petit poisson blanc se plaint, là, c'est Pierre.
Qui reçoit, oui, c'est ça.
Chauffeur des
pour ça, je pèse dans 3-2-1.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.